Vous écoutez l'écho des sons.
Des recommandations de balado des deux bords de l'Atlantique.
Je suis Élodie Gagnon.
Et je suis Azilis Potser.
On passe tout notre temps à écouter des balados.
Et c'est même notre travail d'en fabriquer.
Nous sommes donc les mieux placés pour vous en conseiller.
Tous les mois, je vous suggère un balado européen.
Et moi, nord-américain.
Pour que vous trouviez le balado fait pour vos oreilles. Alors, je commence cette semaine avec une fiction qui s'appelle La dernière nuit d'Anne Bonny. Est-ce que tu connais ça, Elou?
Oui, je l'ai déjà écouté. Si j'étais dans ta position et que je devais recommander des balados de l'autre bord de l'Atlantique, ça ferait partie des suggestions.
Oui. Bon, ben parfait. Bon, si je choisis de vous la recommander particulièrement en ce mois de décembre, c'est parce que c'est une fiction qui m'a accompagnée dans l'avion il y a un an quand j'arrivais au Québec. Mais bon, juste avant de reprendre l'avion, je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de ça. Oui, je rentre en Bretagne, mais on va quand même continuer à faire l'écho des sons. Vous inquiétez pas, là. C'est pas la fin. Vous allez toujours avoir des recommandations, mais juste le format va évoluer un petit peu. Alors, c'est une fiction qui raconte l'histoire de la pirate Anne Bonny. Le point de départ, c'est Anne Bonny qui voit la mort et elle lui annonce qu'elle va venir la chercher à la fin de la nuit. Alors, elle décide qu'elle veut écrire ses mémoires, sa version de sa vie. Une version qui déconstruit notamment le récit d'un certain Capitaine Johnson qu'il a décrit dans son Histoire générale des pirates. Une version qui ne convient pas du tout à Anne Bonny et non plus aux historiens et aux historiennes, on va l'entendre.
Anne est l'enfant bâtarde d'un avocat et d'une servante, c'est-à-dire que dès le départ, sa naissance fait désordre, enfreint les règles sociales. Et c'est comme si ça ouvrait une brèche, un espace dans lequel Johnson s'engouffrait pour reconstruire l'histoire à sa convenance.
Nous aussi, on reconstruit, c'est la base du métier.
Oui, certes, mais Johnson, c'est autre chose. Lui, il écrit carrément à vaudeville.
Je suis William Cormac, avocat à Cork. J'ai épousé une femme riche, Elisabeth.
Elisabeth, c'est moi. Je viens d'accoucher.
Je ne l'aime pas, mais elle est riche et cela fait bien mes affaires.
Quant à moi, je suis Marie et je travaille chez William et Elisabeth. Je suis la bonne, comme on dit.
William, mon époux, je pars à la campagne me reposer après cet accouchement éprouvant.
Faites, Elisabeth, faites et prenez soin de vous.
Marie.
Monsieur.
Marie,
oh, monsieur.
Que vous êtes belle. Oh, approchez, vous me rendez fou!
Monsieur, nous ne devrions pas!
Voilà, sur 3 pages étonnantes, Johnson raconte avec force péripéties et allusions grivoises comment la femme de William, futur père de Anne Bonny, découvre qu'elle est cocu.
Mon ami, je suis rentrée!
Oh, Elisabeth!
Et comment elle se venge.
On ne piétine pas mon honneur impunément.
J'accuserai Marie de vol et elle sera jetée en prison.
William!
Marie!
Malgré son innocence, Marie est condamnée à 7 mois de prison. Dans sa cellule, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle est finalement acquittée et accouche d'une fille à sa sortie, la fameuse Anne Bonny.
Ma mère ne m'a jamais parlé de cette histoire de vaudeville, ni de prison. Mon père non plus d'ailleurs. De toute façon, ma mère ne m'a pas raconté grand-chose.
Cette série-là est une fiction, on réinterprète sa vie, mais elle a vraiment existé. Anne Bonny, c'est un personnage historique.
Oui, oui.
Je pense qu'on n'a pas tant d'informations sur elle qui est dévoilée dans la série. Mais c'est ça qui
est
intéressant.
C'est une réinvention de l'histoire, puis ça vient questionner qu'est-ce que devient la mémoire d'un personnage comme Anne Bonny des années après. Moi, ce que j'adore, et là, on l'a beaucoup entendu dans l'extrait, c'est le jeu avec les codes de la fiction qui est fabuleux. Enfin, on a les deux historiens là, qu'on entend au début qui se chamaillent pendant toute la série sur des faits historiques, puis sur l'exactitude des faits, etc. Et ça devient très drôle. Mais en même temps, en se chamaillant, ils apportent aussi du contexte. En fait, on comprend son histoire, comment elle passe d'un espace à un autre, etc. Ce qui est vraiment hyper bien pensé. Puis ce que j'aime aussi, c'est la manière dont on rit de la version du Capitaine Johnson avec cette scène de théâtre qui est rejouée et qui est hilarante.
Oui.
Avec la musique derrière. Enfin, c'est vraiment très cliché, mais justement, c'est ça qui est bon, c'est qu'on le tourne à la dérision. Et ce qui est très fort, c'est que malgré toute cette diversité de sons puis de personnes qui interagissent, etc., on perd jamais le fil de l'histoire parce qu'on a toujours Anne Bonny, donc, qu'on a entendu à la fin de l'extrait, là, qui revient à chaque fois. Mais ce qui fait qu'on se perd pas et qu'on la suit toujours dans son histoire à elle. Et c'est ça qui est vraiment bon. Évidemment, c'est une fiction à très gros budget, c'est du Arte Radio qui est super bien fait. c'est pas surprenant. Mais ça marque quand même une transition pour Arte Radio, qui est plutôt habituée à enregistrer des fictions en conditions réelles, on va dire. Donc, par exemple, si ça se passe dans un appartement, ben, on sera dans un appartement, pareil dans un bar, etc. Alors que là, tout a été enregistré en studio. Et ensuite, ils ont recréé toutes ces scènes, et ils recréent quand même des scènes sur l'eau, dans des bateaux, etc., ce qui n'est pas évident à faire. Donc, ça change quand même beaucoup.
C'était la première fois qu'ils faisaient ce genre de production-là en studio.
Une si grosse production, oui. Ils ont déjà testé en studio d'autres choses avant, mais comme une série complète comme ça, avec un tel budget en studio, c'est la première.
Et est-ce qu'on sait s'ils ont l'intention justement de refaire ce genre de série?
On ne sait pas pour l'instant, c'est toute
Alors,
la
si
surprise.
Si quelqu'un d'Arte nous entend, on aimerait avoir la réponse.
Oui, ce serait vraiment bien. Mais ce qui est bon, c'est que même si c'est en studio puis qu'ils arrivent à tout recréer, l'ambiance, etc., ils gardent le côté très impertinent qu'a Arte Radio, qui est la signature de ce studio depuis des années. Et c'est vraiment ça qu'on aime aussi là, chez Arte Radio, c'est qu'ils viennent poser des questions plus larges à travers une fiction, et voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai adoré cette série. C'est vraiment une série à écouter d'une traite, c'est comme un bon livre qu'on n'arrive pas à lâcher.
Moi, je me disais aussi en l'écoutant que c'est une excellente série pour les ados, pour à la fois en apprendre plus sur l'histoire, mais sans qu'il n'y paraisse de manière très, justement, ludique et agréable.
Et justement, tu m'amènes sur un point important, il y a une version pour enfants qui a été créée de cette série-là, et qui est vraiment bonne aussi. Donc, si vous avez des enfants, faites-la écouter. Et puis, voilà, une bonne activité à faire pendant les fêtes, finalement.
Waouh, mais ça, c'est génial, avoir une version pour enfants d'une série pour adultes.
C'est ça. Bah, surtout que là, il y a des histoires quand même assez rocambolesques, puisque Anne Bonny n'a pas eu une vie très plate, là, on va pas se mentir. Donc, c'est une pirate, c'est ça, là. Donc, ils l'ont aussi adaptée pour les enfants.
Oh, chouette. Alors là, Zliz, souvent, on se suit dans nos recommandations, mais cette fois-ci, pas du tout. Parce que je vous parle d'une série très dramatique, parce que ça traite d'un sujet, et je le sais, là, très sensible. Et je fais un trigger warning, comme on dit en bon français. Ça parle de fécondation in vitro, mais qui se passe mal. Donc, je comprends que ça peut être sensible pour certaines auditrices, auditeurs. Donc, j'aime mieux le dire avant. Alors, je vous parle de la série The Retrievals, une série produite par Serial Production, donc la production qui nous a donné Serial, qui a été achetée il y a quelques années par le New York Times, mais qui continue à faire d'excellentes productions. C'est une série réalisée par Suzanne Burton, une femme d'expérience qui a travaillé pendant des années pour This American Life.
Okay,
donc
oui.
Vraiment, oui, une réalisatrice aguerrie. Et il fallait que ce soit quelqu'un, justement, qui ait du métier derrière la cravate pour faire quelque chose sur un sujet aussi délicat. Et elle se sert donc d'un fait divers, en fait, très sordide, celui d'une infirmière d'une clinique de fertilité aux États-Unis qui, pendant environ 2 ans, a subtilisé la drogue, dans ce cas-ci le fentanyl, destinée aux patientes lors de la ponction de leur ovocyte. Donc, c'est une ponction qu'on fait dans le but d'effectuer une fécondation in vitro en laboratoire ultérieurement. C'est une procédure qui, normalement, se passe sous anesthésie locale ou sous effet de drogue puissante parce que c'est extrêmement douloureux. Et justement, c'est le problème, c'est-à-dire que cette femme, donc, qui s'utilisait cette drogue puissante, eh bien, elle accompagnait les patientes, sachant très bien qu'elle leur donnait de l'eau saline, c'est ce par quoi elle remplaçait. Elle a subtilisé comme ça un grand pourcentage, donc pas tout le fentanyl, mais presque. Donc, les patientes avaient des douleurs atroces, hurlaient, pleuraient, demandaient qu'on arrête la procédure, se faisaient répondre que, ben voyons donc, on est si proche du but, prenez sur vous, madame, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Franchement, vous êtes capable?
Oui, bon. Des propos horribles dans la situation. Mais...
dans la situation, exactement. En fait, on banalisait beaucoup leur douleur. Et comme pour toutes les productions de Serial, c'est ce qu'on fait avec celle-ci, c'est-à-dire qu'on prend une histoire simple, horrible, certes, mais simple, qui cache des enjeux complexes et surtout profondément humains.
It's a language that doesn't take responsibility. It individuates the problem. So it's here's this woman who was troubled, who took advantage of an otherwise impeccably well-oiled machine, you know?
And again, it's not like, what can we do to never have this happen again, but more, you know, well, you know, it was her fault. She's gone.
You know, I think if it wasn't Donna, it could have been anybody else. They didn't create an environment where there were checks and balances, where there was a proper policy and procedure in place, that there were ways to mitigate risk.
It was like, oh, here's this problem. We've now eliminated the problem. But there was a whole system of enablers. There was a whole system that helped prop Donna up, excused her behavior, and then threw her out.
It is a source of deep frustration for many of us that the party line up and down has been about one bad egg, a staffer told me. I would have liked to see my institution acknowledge mistakes, apologize to patients for a systemic failure on Yale's part, take ownership, and clearly outline steps to prevent this from ever happening again.
C'est vraiment bon parce que justement ce que tu disais, ça interroge le système complet. C'est pas juste raconter une histoire, mais bien un ensemble et comment un système médical au complet laisse ce genre d'horreur passer. Et j'imagine que c'est les patientes qu'on entend?
En fait, on entend différentes personnes. En fait, on entend tout le monde, sauf l'infirmière en question, qui depuis a été jugée, a fait de la prison. Donc, on ne l'entend pas, elle, parce qu'elle a refusé de participer au balado. Et on n'entend pas les gens de la clinique, outre certains employés, et encore là, de manière anonyme. Mais on n'entend pas, par exemple, les dirigeants de la clinique ou les médecins de la clinique.
Et est-ce qu'ils ont refusé de témoigner?
Ils ont refusé de témoigner dans le balado, oui.
OK, bon, ça raconte quelque chose aussi, le refus de témoigner.
Juste le fait, effectivement, effectivement. Mais ce que tu dis tout à fait juste, Azilise, en fait, c'est beaucoup plus qu'une enquête sur un crime. C'est vraiment une enquête sur la douleur des femmes et sa perception par le système de santé américain, mais j'aurais le goût de dire par tous les systèmes de santé dans le monde. Et je dirais particulièrement ici au Canada, suite au drame de Joyce Echaquan, qu'on se rappelle, c'est cette femme autochtone. Bien, je dis qu'on se rappelle, au Canada, tout le monde s'en rappelle.
Oui, tout le monde s'en rappelle, j'espère.
Peut-être plus pour le public européen, mais c'est cette femme, donc, d'origine autochtone qui est décédée dans l'indifférence la plus totale dans un hôpital où personne ne prenait ses appels à l'aide au sérieux et sa douleur, justement, au sérieux. Donc, pour moi, en tout cas, c'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand j'ai écouté la série. Et je dois dire que le travail de Suzanne Burton est extraordinaire parce que c'est un sujet, je l'ai dit, délicat, sensible, ça prend beaucoup de doigté et elle a ce doigté. Elle va recueillir les témoignages, entre autres, des victimes tout en douceur, mais elle ne s'arrête pas juste aux victimes. Ça aurait été d'ailleurs facile de ne présenter que le côté exact. Donc, elle va vraiment parler au-delà de ça. On parle d'ailleurs aussi du contexte familial de cette infirmière-là qui était très difficile, séparée d'un ex-mari qui était abusif. Donc, bon, tu sais, on peut comprendre le contexte.
Ça ne vient pas juste mettre la faute sur cette personne-là, mais sur l'ensemble. Et ils expliquent aussi le contexte, c'est vraiment bon.
Exactement. Oui, c'est ça, c'est qu'on dépersonnalise un petit peu le cas de l'infirmière pour poser la question du système. Comment on systémise, en fait, la douleur? Comment on l'accepte comme quelque chose de... du soin, ça fait partie du système, faut passer à travers. Et comment aussi c'est très associé aux femmes. On dirait qu'on l'impose beaucoup aux femmes dans ce genre, en tout cas, de traitement. Alors, c'est vachement intéressant. Puis, tu sais, je me suis longtemps demandé, est-ce que je ne suis pas un petit peu trop dure de proposer ça comme dernier balado de l'année?
C'est vrai que c'est intense, là, mais bon.
Surtout dans le temps des fêtes. Mais je trouvais ça important de parler de cette série-là à cause de son côté slow balado. C'est un terme, allez pas le chercher, je l'ai inventé, ça n'existe pas. Mais pour moi, du slow balado, c'est vraiment... une série qui prend le temps de déployer son sujet, dans ce cas-ci avec des silences qui sont tellement longs que des fois, il fallait que je sorte mon lecteur pour voir si c'est arrêté par accident.
Okay. C'est intense, ça, quand même.
Mais en même temps, c'est tellement...
Oui, dur
c'est
à
tellement
écouter,
sensible que je trouve que ça fait du bien parce que justement, on se dépose. Et la musique est magnifique. Elle vient vraiment nous soutenir, nous prendre par la main, nous bercer. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment une série qui est bienveillante et qui prend le temps d'être bienveillante. Une série qui a probablement coûté très cher à faire, mais qui va tellement plus en profondeur pour nous offrir un 360 autour d'un enjeu important. Donc, le souhait pour la prochaine année, si je pouvais en faire un pour l'ensemble de l'industrie du balado mondial, ça serait d'avoir plus de ce genre de séries-là, parce que c'est aussi des séries qui restent avec nous longtemps, auxquelles on réfléchit, qui nous font réfléchir aussi sur des enjeux tout à fait actuels et importants. Donc, voilà, si au moins je peux toucher une personne, ben écoute, ça sera déjà ça le fait.
C'est la fin de cet épisode, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dans un mois avec deux nouvelles recommandations.
D'ailleurs, tous les liens des balados qu'on vous a conseillés se retrouvent dans la description de l'épisode.
Maintenant que vous savez quoi écouter, ne gardez pas ces recommandations pour vous, partagez-les avec votre entourage.
Et parce qu'on veut vous faire écouter toujours plus de bons balados, on vous fait jouer, à la fin de chaque épisode, une bande-annonce d'un nouveau podcast.
D'ailleurs, si vous en avez une à nous partager, envoyez-nous-la à info@recreationaudio.ca.
L'écho des sons est un balado d'Élodie Gagnon
et d'Asilis Potser,
produit par la fabrique de balados Récréation.
Le montage et le mixage ont été faits par moi, Asilis.
Le visuel a été réalisé par Justine G. Chaplot.
Et le thème musical a été composé par Jonathan Lurquin et Thomas Rossi et déniché sur BAM Music.
Bonne écoute tout le monde!
Est-ce que vous connaissez le nom des parties intimes de votre corps?
Ah oui,
la partie là, le zizi.
Cette année, avec ma classe de CE1, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de votre corps.
Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être le consentement.
Est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux?
J'ai fait des séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Si pour les garçons c'est le pénis, pour les filles c'est la...
Consentement, anatomie, stéréotypes de genre, sexisme, violence sexiste et sexuelle, j'ai abordé tous ces sujets avec eux. Et je les ai enregistrés.
La vulve. La vulve.
Je m'appelle Lolita Rivet et après 10 ans de journalisme, je suis devenue instite. Assez vite, j'ai été confrontée à des réflexions sexistes, à des insultes racistes ou homophobes entre les élèves, voire à des agressions. Et puis j'ai remarqué que mes élèves étaient assez ignorants en ce qui concerne leur corps et son fonctionnement. Sans parler du consentement, ça c'est carrément flou.
Tu te rappelles ce qu'on avait dit, que quand on sent qu'on a envie de frapper, qu'est-ce qu'on fait?
On prend la colère et on l'achète.
Dans « C'est quoi l'amour maîtresse ?», je mène l'enquête. Pourquoi si peu d'élèves bénéficient de cours d'éducation à la sexualité en France, alors que c'est un enseignement obligatoire du CP à la terminale depuis 2001? Pourquoi y a-t-il tant de résistance? J'ai donné la parole à celles et ceux qui sont complètement opposés à cet enseignement à l'école, mais aussi à des psys, des chercheurs et des chercheuses qui nous expliquent pourquoi offrir une éducation complète à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ça pourrait changer notre société tout entière.
Parler de sexualité à des enfants, c'est déjà leur permettre de mettre des mots sur des choses qu'ils ne connaissent pas.
Et une éducation à la sexualité qui est bien ficelée et bien réfléchie contribue à ouvrir bien grand le champ des possibles.
C'est quoi l'amour maîtresse? Une série documentaire de Lolita Rivet en 5 épisodes à écouter dès le 13 octobre 2023 dans le podcast Le cœur sur la table, créé par Victoire Tuyon.
Binge Audio.